France Culture. Tion du soir, Quentin l'a fait.
Pourquoi a-t-on tant de mal à démontrer auprès de publics informés, mais aussi plus large, l'impact de la recherche sur la connaissance d'un phénomène aussi prégnant pour le débat politique que les migrations? C'est la question posée par Catherine Vitold de Venden à la fin de son ouvrage intitulé « Immigration, indifférence, indignation, déshumanisation ». On constate en effet une scission entre celles et ceux qui œuvrent à faire connaître la réalité des migrants et des migrations et les décideurs qui dénoncent, je cite, « l'immigrationnisme ». Alors quelles sont les raisons et les conséquences d'une telle conception de l'immigration dans le débat politique et dans l'opinion publique? Pour en parler, une invitée ce soir, Catherine Vitold de Venden. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS. Vous êtes docteur en sciences politiques à Sciences Po. Vous êtes autrice de nombreux ouvrages et articles de revues scientifiques sur l'immigration et politique migratoire. Je redonne le titre de votre dernier ouvrage, Immigration, indifférence, indignation, déshumanisation. C'est aux éditions Autrement. Merci d'être présente ce soir dans Question du soir.
Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que tout un pays, toute une communauté, département français,
s'il vous plaît.
Est confronté à des vagues d'immigration illégale telles qu'elles atteignent 25% de la population. Et c'est un désespoir. Qui peut dire parmi nous que c'est pas vrai? Et donc, ce ne sont pas les mots, monsieur le président Vallaud, qui sont choquants, c'est les réalités.
Vous avez reconnu la voix de François Bayrou, le Premier ministre qui s'exprimait à l'Assemblée nationale le 28 janvier dernier, qui tentait de justifier ce terme employé, celui de submersion. Catherine Vitold de Venden, est-ce que les faits permettent eux aussi de justifier ne serait-ce que le début d'une submersion migratoire en France?
Il n'y a pas du tout de submersion migratoire, puisque la moyenne de la présence immigrée dans les pays européens, c'est de 10%. Et la France est autour de 10,5, 10,7%. Donc, on est tout à fait dans la moyenne européenne, 13% en Allemagne, par exemple. Donc, il n'y a pas de submersion. Et on a accueilli 11 000 Syriens en 2015, quand l'Allemagne en accueillait 435 000 sur le million qui est arrivé venant d'autres pays du Proche-Orient, et 4% des Ukrainiens en 2023.
Comment est-ce que vous expliquez pourtant ce hiatus qui dure dans le temps, qui dure très très largement, entre la perception de l'immigration, c'est toujours celle qu'on avance quand on veut contredire ou tempérer les faits, et justement les faits, la recherche, la documentation et le travail au long cours?
Alors d'une part, il y a une hyperpolitisation du sujet qui s'est poursuivie, si j'ose dire, depuis l'apparition de Jean-Marie Le Pen aux élections municipales de Dreux, faut pas oublier. Avant, il parlait de la guerre d'Algérie, de l'action française, etc. Et là, il s'est mis à traiter du sujet migratoire et ça a marché, si j'ose dire. Et il a créé tout un discours partagé à l'extrême droite, mais pas seulement, sur l'idée qu'on serait submergé. Il a lui-même employé d'ailleurs ce terme à plusieurs reprises entre 83 et ces dernières années. Donc ça, je crois que c'est un premier aspect qu'il faut prendre en compte. D'autre part, il y a d'autres idéologues qui se sont prononcés là-dessus. Le terme aussi du grand remplacement, par exemple, d'Éric Zemmour pendant sa campagne présidentielle de 2022.
Alors, le grand remplacement, à l'origine, c'est Renaud Camus.
C'est Renaud Camus, mais lui, il a reprise cette idée. Et puis, les craintes, par exemple, de Samuel Huntington, dès 1994, sur ce clash of civilizations. Donc, cette idée qu'on serait menacé par une vague presque marine, maritime, qui viendrait complètement balayer la civilisation européenne. On n'est plus tellement sur le terrain économique, on est sur un terrain civilisationnel et très idéologique, et partagé aujourd'hui dans beaucoup de pays européens qui sont passés à l'extrême droite. Je parle par exemple de M. Orban, des discours autrichiens dans les partis d'extrême droite, de l'agence AFD en Allemagne, et quelques autres partis qui aujourd'hui, on le voit en poupe. Donc il y a une sorte de tendance, sans parler bien sûr de l'Italie, même si elle n'est pas tellement sur ce terme de submersion. Mais il y a un courant aujourd'hui très favorable pour tenter de donner une légitimité à un terme très idéologique, d'une certaine façon, très subjectif, qui est lancé aujourd'hui dans le débat politique.
Est-ce que vous pensez que l'opinion est sensible justement à ces discours politiques, que les discours politiques que vous évoquez permettent de structurer, de restructurer la façon dont l'opinion publique, dont les opinions publiques tout de même perçoivent ce sujet de l'immigration?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits qui disent que plus de 60% des Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France. Ça a été développé, mais en même temps, ça n'est pas le premier sujet qui préoccupe les Français. Ça passe après...
après le pouvoir d'achat, après
pouvoir
la santé,
d'achat,
après
l'environnement,
bien d'autres.
La santé, etc. Ça, c'est une première chose. D'autre part, d'autres études plus qualitatives qui ont été menées montrent que beaucoup de Français, en réalité, ont une pratique de vivre ensemble beaucoup plus importante qu'on ne le dit. On est les champions des mariages mixtes, par exemple, en Europe. 68% des Français interviewés par des sondages Harris disent qu'ils sont favorables au droit de vote local des étrangers, etc. Donc, en fait, la pratique est très différente de ce qui est supposé, disons, les inquiéter le plus. Et de toute façon, l'argument, disons, un peu démagogique en disant les Français considèrent qu'il y a trop d'immigration en France, en réalité, ben, dans ce cas-là, il aurait fallu changer la réforme des retraites, puisque les Français considèrent que ce qui a été imposé n'était pas ce qu'ils souhaitaient. Ça aurait dû être la même chose pour la peine de mort, etc. Donc ce ne sont pas des arguments. Les arguments que je trouve sérieux, ce sont les arguments précisément des chercheurs et de quelques autres experts qui font du terrain, dont les étudiants qui font leur thèse, et qui constatent très modestement toute une série de chiffres, d'analyses, etc., et qui disent l'immigration est... pour l'instant, rapporte plus qu'elle ne coûte, si on est sur le terrain économique. Elle remplit des secteurs en tension qui, autrement, ne seraient pas pourvus, par exemple. Il n'y a pas d'appel d'air. Les gens ne viennent pas pour la sécurité sociale parce que quand on a 20 ans et qu'on part du Soudan ou d'Afghanistan, je ne pense pas que ce soit la préoccupation des jeunes qui arrivent, par exemple, à Calais. Donc, on est dans une sorte de, disons, un discours un peu hors sol qui est lancé dans le terrain politique qui n'a rien à voir avec la réalité et que beaucoup de chercheurs, dont François Héran, qui est professeur au Collège de France, ont essayé de, disons, déconstruire, mais avec peu de succès. On est très peu écoutés par les politiques qui, eux, sont fascinés par les résultats des sondages et par le succès du parti de Marine Le Pen.
Alors justement, sur ce sujet, je voudrais vous faire entendre, Catherine Vitol de Venden, un échange, une discussion plutôt entre Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur, et le journaliste Tristan Vallec. C'était le 24 janvier 2025 sur France 2, dans Complément d'enquête.
Cambriolage, c'est 38% qui sont commis par des étrangers. Vol de voiture, 40%.
Encore une fois, il y a tout un tas de biais. Il peut y avoir des discriminations dans la chaîne pénale.
Vous êtes en train de dire qu'il y a des discriminations dans la chaîne pénale. C'est-à-dire que nos magistrats jugeraient plus durement
les étrangers internationaux qui sont arrivés à ces conclusions-là.
Eh bien, la réalité dément cette étude.
C'est frappant, cette conclusion, la réalité dément cette étude. On a l'impression que deux réalités s'opposent dans ces deux discours, la réalité, ou en tout cas la réalité alternative, pour le coup, d'un responsable politique, et la réalité établie par les faits, qui est le fruit d'un travail de recherche, le travail de recherche en l'occurrence mené par le CEPI. Comment est-ce que vous expliquez justement cette opposition discursive entre un journaliste et le ministre de l'Intérieur ?
D'une part, je pense que dans les discours politiques, je ne parle pas spécialement de celui de M. Retailleau, mais il y a souvent une confusion déjà entre les étrangers, les immigrés. Les immigrés, c'est les gens qui sont arrivés primo-migrants. Les étrangers, les non-nationaux, qui sont moins importants en nombre que les immigrés. Parmi eux, il y a des gens qui ont acquis la nationalité française, etc. Et d'autre part, les générations issues de l'immigration. Et ça, c'est trois choses complètement différentes. Et il y a une perception, parce qu'ils ont un nom, par exemple, maghrébin ou africain, que ce sont nécessairement des étrangers, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque là, c'était le terme qui était employé. Il y a un mélange, disons, très, très, très inquiétant. Et puis aussi, la perception, on a plus de chances, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus, de se faire interpeller si on est visible, comme on dit, que si on est blanc et blond aux yeux bleus. Donc ça, il y a un biais qui est créé de cette façon. Et puis aussi, mais ça, c'est les travaux des sociologues comme Bourdieu. Autrefois, du temps de l'Ancien Régime, ceux qui étaient délinquants, c'était les pauvres, c'était des gens qui étaient mal insérés. Aujourd'hui, c'est aussi des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre devant les tribunaux et qui sont souvent des gens, socialement défavorisés. Donc, c'est pas étonnant qu'on y trouve des étrangers, mais il y a un mélange des chiffres aussi qui est très dangereux.
On l'a dit, hein, vous travaillez à Sciences Po, vous travaillez également aux séries. Est-ce que vous-même, depuis le temps où vous travaillez sur ces questions migratoires, depuis le temps où vous travaillez, vous faites des entretiens avec des personnes réfugiées, des personnes migrantes qui vivent en France, est-ce que vous avez accès à ces responsables politiques? Est-ce qu'il y a un dialogue qui existe entre chercheurs et responsables politiques sur ces questions, ou vous avez le sentiment qu'entre le milieu associatif et la recherche d'un côté et les responsables politiques de l'autre, ce sont deux mondes totalement imperméables qui jamais n'échangent ensemble?
Alors effectivement, on en est arrivé à ce constat que vous faites. Mais c'était moins le cas dans le passé, déjà du temps la gauche au pouvoir, pour simplifier. On avait plus de dialogue, même s'ils avaient d'autres biais, si j'ose dire. Certains étaient hyper jacobins, républicains et pas tellement ouverts à des thématiques liées à la diversité, par exemple. D'autres davantage. Ensuite, il y avait une certaine curiosité dans le passé, y compris avec la droite et avec des courants modérés sur ces sujets. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est deux mondes qui ne se rencontrent plus du tout. Hein, moi, ça fait 40 ans que je travaille là-dessus. Je n'ai rencontré aucun responsable ces dernières années qui ait un pouvoir quelconque pour changer la politique migratoire.
Vous acceptez vous-même de vous rendre place Beauvau, à l'Élysée, à Matignon, parce que certains chercheurs aussi refusent désormais se prêter à ce type d'échange.
Non, moi je pense qu'il faut dialoguer parce qu'ils sont dans leur monde, si j'ose dire. Hein. Et ce sont des mondes aussi qui ne communiquent pas parce que d'une part, de plus en plus, les décideurs dans les ministères considèrent qu'on est des islamo-gauchistes, wokistes, etc. J'ai dû faire 200 jurys de thèse dans ma vie. J'ai jamais rencontré de professeur dans ces différents jurys de France et de Navarre qui puisse ressembler à ce genre de profil. Donc, il y a une idée complètement fausse du monde universitaire. Souvent, ils n'ont pas fait les mêmes formations. Beaucoup, parmi les gens qui sont en position de décision dans les ministères, ont fait plutôt des grandes écoles, alors que les chercheurs aussi, parfois, en ont fait, pas les mêmes, mais viennent aussi du monde universitaire. Donc, c'est tout à fait... Il y a une sorte de fracture qui n'existe pas à l'étranger, parce qu'ils ont tous fait l'université, si j'ose dire. Ça, c'est un deuxième élément. Et puis, il y a une méfiance réciproque. Il y a une méfiance réciproque qui s'est creusée la parole du chercheur n'est pas considérée comme une parole fiable parce qu'il croit qu'on a des biais qui seraient liés au fait qu'on peut fréquenter ou pas le monde associatif, etc. Et ça, je crois que c'est très, très inquiétant, avec des conséquences sur la prise de décision.
On connaît, Catherine Vitold de Venden, le GIEC hein, qui se charge du climat. Qu'est-ce que le GIEM, qui est un organisme tout à fait nouveau et qui a vocation à s'occuper de migration, justement, à rassembler les chercheurs autour de cette question?
Bah, il n'a pas beaucoup évolué, si j'ose dire. C'était une idée qui me paraissait tout à fait intéressante, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de résultats.
Mais racontez aux auditeurs de quoi il s'agit, même, j'allais dire, sa raison d'être.
Alors, c'était l'idée de fédérer un certain nombre de chercheurs, d'experts, de gens qui avaient des choses à dire sur les questions migratoires, qui peuvent aussi inclure les églises et toutes sortes de personnes qui ont une quelconque expertise sur le sujet, qui peuvent être aussi des associations qu'il y ait une possibilité de concertation les thématiques migratoires. Le GIEC est un peu plus écouté que le GIEM, qui pour l'instant est un état que je considère comme stagnant, parce que il est presque moribond, j'aurais tendance à dire, parce que c'est pas un pôle qui est consulté par les décideurs. Or, on envoie en permanence dans nos messages des chiffres, on redresse toute une série d'idées reçues, mais c'est pas du tout écouté. Ce qu'ils écoutent, c'est les sondages et c'est le discours de l'extrême droite. J'insiste vraiment là-dessus.
Je voudrais qu'on revienne sur la perception de l'immigration, mais dans le temps long, cette fois-ci, au cours de plusieurs décennies. Il faut nous expliquer pourquoi, comment se fait-il que cette perception de l'immigration a largement évolué, que ce n'est pas une donnée totalement stable dans
Absolument.
Le temps.
Alors, j'ai fait un livre là-dessus qui s'appelle « Figure de l'autre » qui est sorti chez CNRS Éditions. Le sous-titre, c'est « Perception du migrant en France entre 1870 et 2022 », qui montre qu'effectivement, les images... Alors, il y a des termes qui ont évolué, on parlait du travailleur étranger, ensuite de l'OS dans une approche plus classe ouvrière.
L'OS, c'est l'ouvrier spécialisé.
Ensuite, le musulman avec la montée en visibilité de l'islam. Et maintenant, on parle plutôt des réfugiés. On aurait tendance à penser que dans ces discours, il n'y a plus que des exilés et que les autres n'existent pas. Alors que les flux migratoires les plus importants en France, c'est un, les étudiants, deux, réfugiés, regroupement familial et enfin, la migration économique. Donc en fait, il y a une perception qui, en termes de les termes déjà, ont évolué. Mais aussi les stéréotypes, même s'ils ont une certaine stabilité. C'est-à-dire que par exemple, l'idée que le migrant va prendre le travail des nationaux, c'est une idée très ancienne qu'on trouve même dans la description dans Germinal par Zola qui montre ces Belges qui sont très mal vus des Français, mais c'est vrai aussi des Italiens qui ont été tués à Aigues-Mortes en 1893. Donc l'idée de celui qui vous menace est déjà très présente. Également, dans l'entre-deux-guerres, on est plutôt dans des classifications ethniques. Et aujourd'hui, je crains que certains évoluent vers une tentative de définition ethnique de la nation qui correspond pas du tout à la citoyenneté, à la française. Il n'y a aucune référence à l'ethnicité dans nos textes constitutionnels. Ensuite, le terrorisme, il existait déjà. On a eu un certain nombre de gens qui ont tué deux présidents de la République et quelques autres anarcho-syndicalistes, etc.
Vous parlez des anarchistes, à ceci près quand même que le terrorisme aujourd'hui est fomenté par une idéologie qui s'appelle l'islamisme.
Tout à fait. Mais la crainte...
Ce n'est pas directement lié au sujet de l'immigration,
du terroriste. Bah, parfois, les anarchos, il y avait beaucoup d'Italiens qui avaient commis un certain nombre d'actes mortels. Il y avait une crainte aussi des réfugiés espagnols qui sont arrivés après la fin de la guerre d'Espagne, etc. Donc, même ce thème-là est utilisé. Et puis, bien sûr, la religion qui est impossible à assimiler, comme on disait à l'époque, aujourd'hui intégrée, on disait la même chose dans une France plutôt laïque, des catholiques comme les Italiens ou les Polonais. Donc les thèmes persistent, mais les nationalités cibles évoluent.
Comment est-ce que vous expliquez, Catherine Vitold de Venden, quels sont les motifs, si je puis dire, de l'accélération des flux migratoires depuis le début de la décennie ?
Il y a déjà les crises de réfugiés. On a eu quand même un certain nombre de réfugiés partout dans le monde qui sont liés à des départs massifs. Je pense à l'Afghanistan, je pense à la Syrie, je pense également à d'autres dont on parle moins, dont le Soudan, le Venezuela, et puis bien sûr l'Ukraine, qui est le plus gros flux migratoire récent que l'on ait eu, notamment en Europe, même si la France est plutôt en deuxième ou en troisième position par rapport à ces flux-là. On n'a pas été touché par ces grandes crises en termes de chiffres. Mais à l'échelon mondial, par exemple pour les réfugiés, c'est tout à fait visible. Le rapport du HCR de l'année dernière parlait de 115 millions de gens qui sont en situation de réfugiés. Ils n'ont pas tous le statut, mais en situation de réfugiés dans le monde, on était à 85 dans les années au début des années 2000. Donc on a eu un chiffre qui a énormément augmenté dans le monde des réfugiés. Je crois que c'est un premier phénomène. Deuxièmement, on a de plus en plus d'étudiants aujourd'hui. Par exemple, en Europe, les premiers chiffres, les entrées les plus importantes, ce sont les étudiants, parce que beaucoup d'universités cherchent à diversifier et surtout internationaliser leur cursus universitaire. Et donc, les étudiants sont beaucoup plus nombreux qu'ils n'ont été. On considère que Erasmus est un grand succès à Bruxelles, mais aussi des étudiants non européens. Il y a beaucoup d'échanges universitaires. Donc ça, c'est une deuxième raison. La troisième raison, c'est que beaucoup plus de gens aspirent à bouger parce que ils considèrent que la mobilité est une forme de modernité et que même s'ils n'ont pas de visa, il faut se donner l'option, une chance qui serait l'option migration. Donc on a aussi une croissance de l'immigration irrégulière. Mais cette croissance, elle se fait surtout au sud du monde. L'Europe n'est pas la principale cible de ces arrivées considérées comme massives. On a aujourd'hui des migrations sud-sud dont on parle moins et qui sont en train de dépasser les migrations qui se dirigent vers le nord du monde.
J'aimerais vous faire entendre la voix, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de François Héran. Il est anthropologue et démographe, il est professeur au Collège de France. Il s'exprimait pour la librairie Mola le 18 mai 2023.
Il est quasiment impossible dans un domaine comme celui-là de ne pas être engagé. Parce que lorsque des politiques nous expliquent que, par exemple, l'immigration familiale, c'est ce qui alimente la migration, qu'il faut absolument la réduire drastiquement, et que nous, dans les données, on constate que l'immigration familiale a déjà reculé de façon tout à fait significative, ben il faut bien redresser un petit peu ses propos. Et donc, il y a un côté, notamment dans cette discipline un peu quantitative qu'est la démographie ou la statistique sociale, il y a un côté garde-fou, rappel aux vrais ordres de grandeur, une sorte de retour au réel. C'est un réel qui, évidemment, est construit, mais il y a deux façons d'objectiver le débat. C'est de la remise en perspective dans le temps et dans l'espace.
C'est intéressant et troublant à la fois, d'ailleurs, ce que dit François Héran au début de son propos. On ne peut pas ne pas être engagé, dit-il, selon lui, lorsque on fait des sciences sociales en matière d'immigration, que l'objet, c'est le fait migratoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos? Est-ce que ça rejoint ce que vous avez vécu et traversé vous-même?
Presque tous mes collègues pensent, j'aurais pas tendance à dire pensent comme moi ou moi je pense comme eux, je sais pas dans quel sens ça peut s'utiliser, mais on est très, très consensuel, quelles que soient les disciplines qui étudient le phénomènes migratoires, qu'il s'agisse de sociologues, de politistes, de juristes, de démographes, d'anthropologues, pour dire à peu près les mêmes choses. Moi, ça me frappe énormément. Et on est nécessairement d'une certaine façon engagé, quelle que soit la forme d'engagement. Il s'agit de débattre et peut-être déconstruire un certain nombre de discours. Il va s'agir de faire des choses même souvent bénévoles, d'ailleurs pour les associations, également soutenir un certain nombre de pétitions qui circulent ici et là, s'engager soi-même dans des structures associatives. Aujourd'hui, la plupart des universitaires sont main dans la main avec toute une série d'actions associatives dans toute leur diversité.
Mais que dire?
Parce qu'il y a une indifférence totale. Il y a quand même 50 000 morts en Méditerranée depuis la fin du XXe siècle. On a eu 2200 morts en 2024, 4 000 morts en 2023, etc. C'est devenu banal. Aussi, les morts entre Calais palais d'Ouvre. Donc, c'est quand même étonnant que les gens considèrent que ça fait partie du paysage politique ordinaire.
Mais on comprend très bien, en vous écoutant, les motifs profonds de votre engagement, notamment auprès de ces personnes, auprès de ces associations. Que répondez-vous, cependant, à celles et ceux qui sont embêtés par le fait que des scientifiques s'engagent de la sorte, ou en tout cas qui voient une contradiction apparente entre l'engagement d'un côté et le travail scientifique de l'autre?
Je crois que c'est pas seulement vrai des questions migratoires. Si on regarde la question israélo-palestinienne, il y a aussi des engagements forts aussi, dans ce secteur-là. En sciences humaines, souvent, il y a quand même une empathie avec le sujet qu'on étudie, qui explique ces formes d'engagement, qui peuvent aller jusqu'à des formes de militantisme. Et beaucoup ne sont pas engagés dans le militantisme. Mmh. Mais je pense que ça, c'est lié au fait qu'on se dit que ce n'est pas possible de rester complètement froid vis-à-vis, y compris des évolutions des politiques migratoires qui vont restreindre le regroupement familial, qui vont rendre extrêmement difficile la régularisation. Je pense que beaucoup des gens qui prennent ces décisions pour des raisons électorales n'imaginent pas comment ils pourrissent la vie de toute une série de gens dans des situations impossibles.
Merci beaucoup, Catherine Vitold Venden. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, docteur à Sciences Po. Vous travaillez également aux séries. Vous êtes l'autrice de très nombreux ouvrages et articles de revues scientifiques sur les migrations et les politiques migratoires. Et le titre de ce dernier livre qui vient de paraître, Immigration, indifférence, indignation, déshumanisation, c'est aux éditions Autrement. Merci d'être venu ce soir dans Question du soir. Merci beaucoup.